are listening to SBS.
Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. On a vu dans la deuxième partie de cet épisode que le foot avait commencé à s'implanter de façon sérieuse en Australie après la Seconde Guerre mondiale et qu'il avait été le fruit des vagues d'immigration suite à cette guerre. On va voir dans celui-ci que cette popularité ne plaît pas à tout le monde en Australie, au sein de la bonne société, au sein de certains médias, et que très vite, donc, on va attacher un certain nombre de caractéristiques négatives au football. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec l'historien Romain Fati. Et donc, un sport d'immigrés pas forcément vu d'un très bon œil, un sport pratiqué par des gens qui refusent de s'intégrer, en gros, parce qu'ils continuent à s'attacher à leur sport qui n'est pas le sport roi en Australie, et qu'un certain nombre de gens, un certain nombre de médias, vont associer à de la violence. En gros, le foot, c'est des bagarres, c'est des bastons, c'est des affrontements entre différentes communautés, etc. Est-ce que ces accusations, ces pointages de doigts du foot par donc une partie de la presse et de la bonne société australienne, est-ce que c'est totalement justifié?
C'est difficile de répondre à cette question. Je vais faire une réponse de Normand. Oui et non. Ça peut l'être parce qu'à partir du moment où vous avez des clubs communautaires qui se rassemblent sur des origines ethno-nationales, la fin du match peut donner lieu à des bagarres qui vont être assez médiatisées. Alors que si vous avez deux équipes de cricket ou de footy qui se rencontrent, c'est pas nécessairement la même ambiance. Donc, si vous voulez, le dénigrement qu'il y a peut avoir du football dans les années 50, 60 par les Australiens, il n'est pas totalement injustifié. En revanche, il a été caricaturé, il a été racialisé et surtout, il servait aussi des intérêts économiques. C'est-à-dire que quand vous avez des sports établis comme le rugby, comme le footy, donc le football australien que j'ai expliqué, comme le cricket, vous avez des ligues avec des fédérations qui ont des membres et qui ont intérêt à garder leurs membres. Donc quand vous voyez qu'il y a plusieurs millions de personnes qui arrivent et qui se mettent à jouer à un autre sport, c'est inquiétant. Donc vous avez tout intérêt à vilipender ce sport, à le caricaturer comme étant un sport d'immigrants mal intégré et violent, même si c'est pas la réalité, parce que la plupart des matchs de foot devaient se passer très bien à cette époque-là, mais il suffisait qu'il y ait quelques incidents, un peu comme les hooligans ou comme les ultras en France, où la grande majorité des matchs de Ligue 1 se passent très bien. Voilà, sauf avec quelques équipes où les supporters vont se taper dessus à la fin, ça reste assez rare, mais ça donnait l'occasion de dire « Ah, vous voyez, ces gens-là, ils sont pas tout à fait civilisés, ils réimportent les dynamiques nationales européennes en Australie et les conflits que nous n'avons pas connus. » Et puis c'est aussi un moyen de dire aux Australiens, là depuis plusieurs générations, et les Australiens d'origine britannique, continuez à faire du football australien et non pas du football européen, continuez à faire du cricket, continuez à faire du rugby, mais n'allez pas jouer avec ces gens-là.
Alors, dans toute cette image un peu négative autour du football, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé, parce qu'on l'a vu, donc il y a un certain nombre de gens qui ont essayé de dépeindre ce sport comme violent de façon inhérente, on va dire, et en même temps, à la même période, il y a des gens qui disaient qu'en gros c'était un sport de gonzesse. C'est pas mes mots, c'est les mots d'un grand joueur de footy de l'époque. Enfin voilà, par rapport au rugby, par rapport au foot australien où on se rentre dans l'art et tout ça, le foot on se roule par terre pour rien du tout. Et donc parmi l'un des plus virulents critiques du sport pour sa légèreté, sa faiblesse, il y a donc un cador du footy de l'époque, un monsieur qui s'appelle Jack Dyer. Et qui a fait des déclarations à l'époque publique pour dire que lui et ses collègues de foot australien pouvaient du jour au lendemain battre n'importe quelle équipe de foot tellement c'était un sport de nul en gros. Et justement, il y a une équipe d'amateurs qui va décider de relever le défi, avec donc un côté des gens, voilà, des immigrés de fraîche date qui jouent au foot le week-end en sortant de l'usine. Et de l'autre, vraiment la crème de la crème du football australien qui se rassemble dans une équipe pour un match qui a rassemblé 25 000 personnes pour les voir jouer les uns contre les autres. Je crois que c'était en novembre 64 que ce match a eu lieu. Comment ça s'est passé, Romain?
C'est une super anecdote que vous sortez là, Grégory, parce qu'en fait, ça correspond aux années. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de temps que Bonegila est ouvert. Ça fait déjà pas mal de temps que les communautés de migrants jouent au football. Et c'est pas anodin que ce soit dans le Victoria, hein, l'État dont la capitale est Melbourne, qui a reçu énormément de migrants de Grèce, d'Italie et d'autres pays de l'Europe du Sud. Et effectivement, les joueurs de footy, ils voient un peu que leur jeu est en train de... Il est toujours le roi, si vous voulez, mais que le football européen lui fait de plus en plus de concurrence. Et donc, parce que le Victoria est traditionnellement un État où on plaît au footy, donc au football australien, plutôt que le rugby, où là, c'est plutôt les États comme le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Et donc, dans le Victoria, vous avez ce joueur très connu à l'époque... c'est un peu le Maradona local, si vous voulez, donc 64, qui dit oui, moi je suis allé voir un match de football et franchement, bon, c'était pas terrible, ça m'a un peu dégoûté. Et puis il dit it's really a girls' game, but only for big girls. Donc non seulement il insulte les joueurs, il insulte les femmes, mais en plus là, big girls, ça pourrait être compris comme soit grande fille ou soit grosse fille. Mais enfin, dans tous les cas de figure, c'est assez péjoratif. Et donc, vous avez des joueurs de football qui disent, OK, très bien, mais si c'est un jeu de filles, pourquoi tu viens pas nous montrer avec tes copains comment tu joues? Et donc, Jack, d'ailleurs, rassemble parmi les plus grands joueurs de l'époque. Et donc, ces excellents joueurs extrêmement médiatisés, ça, comment dirais-je, ça appelle les foules. Il y a 25 000 personnes qui se déplacent pour voir le match. Et ces très bons joueurs se prennent un 8-0 par une équipe de football amateur, si vous voulez. Parce que vous pouvez être très bon joueur de cricket ou de rugby ou de football australien, mais ça ne vous donne pas la technique, les gestes, la coordination du football qui est un sport différent. Et ça, c'est valable pour tout plein d'autres sports. C'est pas parce qu'on est bon dans un sport qu'on va être bon dans tous les autres sports. Donc il se prête.
Michael Jordan nous en a donné une belle illustration quand il s'est tenté au baseball après le basket.
Voilà. Voilà, exactement. Et donc, si vous voulez, ils se sont pris une déculottée phénoménale qui a reçu énormément de publicité. Bon, qui finalement a fait du bien aux deux sports parce que voilà, ça fait vendre dans la presse, ça fait vendre des billets. Et puis chacun en sort à peu près indemne, si vous voulez, au final, quoi. Donc, mais c'est pour vous dire que à cette époque-là, il y a quand même un stigmate. Le football, c'est un sport soit pour les basanés, soit pour les hommes un peu efféminés. Et d'ailleurs, un des grands joueurs de football, donc du football tel qu'on conçoit nous à l'européenne, qui s'appelle Johnny Warren, qui était de mémoire capitaine des Socceroos pendant un moment, qui avait été qualifié pour la FIFA en 76 ou 74, je n'ai plus la date.
74, la première participation de l'Australie à la Coupe du Monde, et la seule pendant très très longtemps. Ouais.
Ouais. Il a intitulé ses mémoires Sheilas, Wogs and Poofters, qui pourrait se traduire en les nanas, les basanés et les homos. Et c'est ses mémoires à lui, et donc il utilise ce titre justement pour rentrer dans l'art des détracteurs du football en disant bah voilà, vous nous prenez pour des nanas, vous nous prenez pour des hommes efféminés, vous nous prenez pour des basanés, mais en fait, nous aussi, on a une tradition, on a une culture, on a un sport qui nous plaît et on a une communauté. Donc, il a pris les dénigrements à revers pour en faire les titres de ses mémoires qui raconte justement cette histoire du football dans les années 60-70, où il y a une certaine résistance hein, des Australiens d'origine britannique, parce que c'est changer le style de vie, parce que ça interroge le status quo et que ça ne convient pas à tout le monde.
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques jours pour la quatrième partie de cet épisode consacré à l'histoire du foot en Australie. On verra dans celle-ci comment le football a fini, après des décennies, à rentrer dans la pratique courante et qu'il est désormais détaché des origines ethniques de ceux qui l'ont pratiqué avec le plus de passion dans les décennies précédentes. À très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBSFrench.
Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.